Alors donc, il y aura quatre parties pour parler des prophètes. La matière pourrait être grande. Je vous donnerai pas beaucoup de citations, sinon vous pourrez les retrouver, toutes les références. Alors, quatre parties. Une grande première partie, ça sera sur les généralités sur les prophètes. Voilà, donc pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est qu'un prophète, est-ce que c'est celui qui prédit l'avenir ou voilà. Deuxième partie, ça sera plutôt les prophètes dans l'Ancien Testament. Troisième partie, dans le Nouveau Testament. Et quatrième partie, alors je ne sais pas si vous êtes des fans du renouveau charismatique, toutes, mais en tout cas, je parlerai du charisme de prophétie. Alors donc, j'essaierai avec vous de comprendre. Alors bon, c'est pas exactement la même chose, mais en même temps, ça peut nous aider à comprendre ce qui se passait à l'intérieur des prophètes quand ils prophétisaient. Et puis comme Saint-Pierre, le jour de la Pentecôte, il a dit, ben vous êtes tous des prophètes, alors on va avoir 40 prophètes en plus. Ben, vous l'êtes déjà par votre baptême, mais je ne sais pas si vous exercez ce charisme au quotidien. Alors donc, on verra ça. Ça va? On y va? Alors... Donc, d'abord, la première grande partie, les généralités sur les prophètes. Alors, qu'est-ce qu'un prophète? Le mot français vient d'un mot grec qui dit « prophémi ». Alors, après, j'ai trouvé des étymologies un peu diverses, mais en tout cas, « pro », ça peut être à l'avance, ça peut être sous l'influence de. Et « phémi », c'est parler, affirmer, dire. Donc, c'est parler à l'avance, alors ça pourrait être annoncer l'avenir, ou sous l'influence d'eux, donc parler sous l'influence de Dieu, on pourrait dire. Voilà. Alors, en tout cas, ce qui est premier dans le prophète, c'est qu'il parle de la part de Dieu, le prophète. C'est ça, c'est pas... Alors, j'y viendrai un petit peu plus loin. C'est pas d'abord celui qui prédit l'avenir, comme quelquefois on l'imagine. C'est d'abord celui qui parle au nom de Dieu. Donc c'est le porte-parole de Dieu. Enfin, il y a différentes expressions. Vous vous rappelez d'un épisode de l'Ancien Testament, certainement, avec quand il y a Moïse et Aaron, hein, quand ils doivent aller voir Pharaon. Moïse dit, ben, moi je bégaye, je n'aurais pas trop parlé. Ben alors, Aaron sera ton prophète. Donc Aaron est le prophète de Moïse, en quelque sorte. Dans cette situation pour dire qu'il va parler à la place de Moïse. Donc le prophète, c'est ça aussi. On le trouve exprimé de diverses manières. Par exemple, dans Jérémie, sa vocation, Dieu dit « J'ai mis mes paroles dans ta bouche ». Dieu qui dit ça de Jérémie. Ou alors, souvent, vous entendez ce refrain « Ainsi parle le Seigneur ». C'est le prophète qui parle et « Ainsi parle le Seigneur », etc. Donc tout ça, ça nous dit que le prophète parle de la part de Dieu. Ou je vous cite encore le Deutéronome quand même, 18-18, c'est facile à retenir. « Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors, moi-même, je lui en demanderai compte. » Voilà. Voilà, donc c'est la première chose. Donc, le prophète, c'est d'abord le porte-parole de Dieu. Vous voyez déjà, comme ça, il y a deux éléments un peu chez le prophète. D'une part, il faut qu'il écoute ce que le bon Dieu veut lui dire. Et puis après, il faut qu'il le dise. Donc il y a un peu ces deux aspects dans le prophète. Et du coup, je vous cite Habacuc, « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Cette attitude d'écoute pour savoir qu'est-ce que le Seigneur veut dire. Et ça, on le retrouvera aussi dans le charisme de prophétie, etc. Ça revient aussi de la même manière... Et donc, c'est d'abord connaître ce que Dieu veut dire. C'est connaître quelque chose qu'on ne peut pas connaître par nos seules forces, qui nous est révélé par Dieu. Ça, c'est un premier aspect chez le prophète. Et le deuxième aspect, c'est de dire, de communiquer la parole à ceux à qui elle est destinée. Voilà, c'est... Alors après, les prophètes, ils parlent avec ce qu'ils sont. Hein, s'ils parlent espagnol, ils parlent espagnol. S'ils parlent français, ils diront avec des mots français. J'y reviendrai aussi un peu plus loin pour cette question-là. Un autre élément encore, qui est toujours important chez les prophètes, c'est particulièrement important, c'est leur vocation. Parce que c'est Dieu qui appelle les prophètes. Ce n'est pas eux qui s'auto-proclament prophètes. Alors, il y en a quelquefois dans la Bible, on verra à la fin de ce que je dirais dans l'Ancien Testament, je parlerai un peu des faux prophètes. Il y en a qui prétendent parler au nom de Dieu, mais en fait, Dieu ne les a pas envoyés. Et ça demande tout un discernement, on verra aussi. Hein, mais c'est très important, cette vocation. Les prophètes, par exemple le prophète Jérémie, alors quelquefois il râle un peu contre sa vocation parce qu'il dit mais tu m'as envoyé et puis pour dire des choses pas toujours agréables, etc. Mais il est consacré dès le sein de sa mère et tu m'as séduit Seigneur, etc. Mais il y a une vraie, c'est important, on verra après dans leur positionnement dans le peuple de Dieu. Vraiment, c'est Dieu qui choisit le prophète. Ce n'est pas eux qui s'autoproclament prophète. Voilà. Autre élément encore, donc c'est comme on le dit dans le credo, l'Esprit Saint qui a parlé par les prophètes. Donc il y a un lien entre donc, l'Esprit Saint, cet accueil de l'Esprit Saint et celui qui est... Et qui parle, alors je vous cite quand même saint Pierre dans sa deuxième épître. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, c'est un peu là le cœur de la mission des prophètes. Ça va, l'assiette n'est pas trop dure. Je ne vous ai pas encore endormi. Bon, c'est le cœur de la mission des prophètes, c'est de transmettre aux autres la parole de Dieu, d'être la bouche de Dieu, comme on le dit d'Aaron par rapport à Moïse. Voilà, ça c'est le cœur de leur mission. Maintenant, je vais développer quatre aspects de la mission des prophètes. Alors d'abord, annoncer l'avenir, parce que c'est sans doute ce à quoi on pense le plus spontanément, même si... Et c'est vrai que le prophète, quand il critique l'attitude de ses concitoyens, il ouvre des perspectives, il ouvre un avenir. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a une perspective d'avenir quand même dans les... Alors il révèle quelquefois des événements futurs. Voilà, on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit aussi dans le Nouveau Testament. Vous connaissez bien sûr Agabus. Vous ne connaissez pas Agabus. À vrai dire, je ne le connais pas bien non plus, hein, je dois vous avouer. Mais il est cité quand même deux fois dans les Actes des Apôtres. Et il annonce des choses. Alors, je ne sais plus très bien quoi, mais bon, il annonce des choses. Vous irez voir, je vous donnerai les citations un peu plus loin, je pense que je les retrouverai. Mais il ne faudrait pas réduire le rôle des prophètes à des prévisionnistes, hein, parce que c'est pas des devins. On pourrait dire qu'il y a deux différences quand même du prophète et des devins, hein, celui qui devine l'avenir. Mais bien sûr, vous n'allez jamais voir quelqu'un qui vous prédit l'avenir, hein, j'espère, hein, parce que dans la Bible, ça se fait pas trop. Hein. Bon, en tout cas, il y a deux différences au moins entre les prophètes et les devins par rapport à l'avenir. C'est que les visions qu'annoncent les devins sont... Il y a un certain fatalisme. Bon. Voilà, on vous annonce, et puis c'est ce qui va arriver. Tandis qu'avec les prophètes, non. Dieu, il annonce quelquefois des châtiments, mais son premier désir, c'est que ça n'arrive pas. C'est qu'on se convertisse. Vous vous rappelez de l'histoire de Jonas. encore 3 jours et Ninive sera détruite. Et puis il fait le tour, même une seule journée. Et puis tout le monde s'est converti et Dieu est ravi que les gens aient changé d'idée. Du coup, ça c'est une première différence entre le devin qui, c'est assez déterministe le devin. Tandis qu'avec le prophète, il espère toujours qu'on va changer et puis du coup, voilà, ça n'arrivera pas. Et son but c'est de nous sauver, hein. Le but de Jésus c'est de nous sauver, c'est pas de nous condamner. Ça c'est clair. Alors ça c'est une première différence. Et aussi, de manière très pratico-pratique, Isaïe n'avait pas un jeu de cartes, il n'avait pas, il tirait pas des choses au sort ou tout ça. Les devins, souvent, ils utilisent quelques ustensiles, si je puis dire. Mais non, les prophètes de la Bible, non. Hein, ils n'utilisent pas ça. Voilà. Et s'ils annoncent l'avenir, c'est pour transformer le présent. Voilà. Alors, ça, c'est donc. Un premier élément de la mission des prophètes, c'est par rapport à l'avenir. Un deuxième élément de leur mission, c'est d'interpeller. Le prophète n'est pas quelqu'un qui enseigne d'abord. Il ne fait pas un savant enseignement. Son but, donc, c'est pas la même chose de donner un enseignement ou le prophète, il interpelle. Donc, on n'est pas exactement sur le même registre. Ce qu'il veut, c'est nous secouer un petit peu et puis qu'on bouge, quoi, le prophète. C'est pas simplement nous raconter des belles choses sur le ciel et tout ça. Il y a une finalité très pragmatique, on pourrait dire, vous vous rappelez de l'épisode, par exemple, Gad. C'est bien ça, hein. C'est Nathan. Nathan avec David. David, il avait fait une chose pas bien du tout. Il avait pris la femme de Uri le Hittite. Et alors, Nathan vient le voir. Et vous vous rappelez un petit peu une sorte de parabole. Ah, tu sais, il y avait un pauvre qui avait une seule brebis, il l'avait nourri, tout ça. Et puis il y avait un riche, lui il avait des troupeaux et tout ça. Mais il y a un invité qui arrive et puis il dit, je vais quand même pas sacrifier une des brebis de mon troupeau. Donc il va piquer celle du voisin. Alors David, quand même, il mérite la mort. C'est toi. Cet homme, c'est toi. Oh là, alors là, David, ça l'a un peu percuté, parce qu'il avait pris Bethsabée, la femme de Uri le Hittite. Et du coup, voilà, il interpelle, hein, et il secoue un peu. Hein, donc, alors, par exemple, il y a plein d'exemples, mais je vous les épargne, mais quand il y en a qui ne versent pas leur salaire à ceux qui travaillent pour eux, pour les juges qui sont pas justes, voilà, pour ceux qui écrasent le visage des pauvres, etc. Donc, vraiment, ils interpellent. Alors, 2 citations d'Isaïe. « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. » Ou encore Isaïe. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, mettez au pas l'exacteur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Donc, souvent, ce n'est pas forcément très original ce que les prophètes disent, mais simplement, ils secouent un peu les gens, donc ils interpellent. C'était donc par rapport à l'avenir, après, ils interpellent, et après, ils consolent. Alors, ça dépend ce que traverse le peuple, parce que le but de Dieu, c'est de nous sauver, hein, c'est pas de nous condamner. Hein, donc. Mais à certains moments, dans le prophète Isaïe, il y a ce qu'on appelle le livre de la consolation. Alors, il y a des parties du livre d'Isaïe qui ont été écrites avant l'exil. Alors là, il s'agissait plutôt de les secouer pour qu'ils réagissent un peu. Et puis après, pendant l'exil, voilà, c'est un autre ton, parce qu'ils ont davantage besoin de consolation pour ne pas perdre l'espérance. Donc, le verset 1 du chapitre 40 d'Isaïe. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Donc ça c'est donc il peut annoncer l'avenir ou regarder l'avenir, il peut interpeller, il peut donc consoler, mais il peut aussi éclairer le présent. Et c'est une grande mission des prophètes, c'est de savoir lire au-delà de la matérialité des faits, qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est d'interpréter les événements contemporains, de révéler les pensées, les desseins de Dieu. Voilà. Donc, quelque part, à travers ce qui se passe, le prophète essaie de voir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il attend de nous aussi, quelle est sa volonté dans toute cette situation. Donc, c'est quelque chose qui... le commun des mortels, il ne voit pas. Le prophète, mais par grâce de Dieu, il peut voir, voilà pourquoi Dieu a permis telle ou telle chose. C'est le Ézéchiel parle du prophète comme un guetteur. Il est en train de guetter. On voit toute cette attention pour voir qu'est-ce que ça veut dire. C'est toi donc, fils d'homme, que j'ai établi guetteur pour la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Donc ça, c'est après avoir parlé quelques généralités sur le prophète, là, c'était les quatre composantes de la mission des prophètes. Ça va toujours ? Je dirais aux cuisiniers de tout vous faire de tartes, tout ça, parce que sinon, trop difficile pour moi. Et puis, troisième point, c'est la place du prophète dans la communauté. Je trouve que c'est assez intéressant de voir la place du prophète, qui n'est pas une place forcément très confortable. Là, il fait vraiment partie de la communauté. Alors, vous savez que comme... quand on met le Saint-Crème pour les enfants, tu es prêtre, prophète et roi. Mais dans la société d'Israël, il y avait trois pôles, on pourrait dire, hein, le roi, le prêtre et le prophète. Et c'était important qu'il y ait ces trois éléments. Alors, au départ, quand il y avait, je vous ai cité Nathan, il y a eu... Le roi se faisait entourer des conseils d'un prophète. Et puis après, il y avait les prêtres aussi. Le roi essayait de savoir si, auprès du prophète, si c'était bien dans le sens que Dieu voulait. On voit par exemple Isaïe, alors j'en parlerai un tout petit peu, pas très longtemps, mais Isaïe avait conseillé le roi Akaz, là, qui voulait faire une alliance avec les Assyriens, etc. Donc il lui dit non, fais confiance au bon Dieu. Et puis, donc c'est la place du prophète à côté du roi pour quelquefois contredire aussi le roi. Ce qui est intéressant, c'est que bon, les rois, il y a une dynastie, donc voilà, c'est les prêtres aussi dans chez les Juifs, donc c'était aussi c'était toute une tribu, et voilà, ils étaient prêtres de père en fils. Les prophètes, non, parce que toujours il y a un choix de Dieu. C'est une place un petit peu particulière. C'est un don de Dieu, le prophète. Et d'ailleurs, à la fin, après Malachi, quel est le prophète qui suit Malachi dans la Bible? Mais très bien. Ah, il y a une bonne élève, hein. Mais oui, après c'est Jean-Baptiste, mais pendant toute une période qu'on appelle la période intertestamentaire, à un moment, je ne sais pas, il y a un autel qui est profané, c'est dans le livre des Maccabées. Mais ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Ils disent, ben, quand il y aura un prophète, ben, on saura quoi en faire, mais pendant ce temps-là, on va les mettre un peu sur le côté, et puis... mais il n'y avait plus de prophètes pendant un certain nombre d'années. Voilà. Alors donc, c'est vraiment un don de Dieu, le prophète. Et comme c'est Dieu qui l'a choisi, c'est comme dans notre communauté, les frères sont tous différents. Hein. Enfin, je ne vous l'avais peut-être pas remarqué, mais... mais on a exactement le même caractère, on est des moules, hein. Des clones presque. On a un peu de choses près. Les prophètes sont souvent assez différents les uns des autres. C'est Dieu qui choisit. Alors, Isaïe était un haut fonctionnaire du roi, Daniel aussi. Jérémie et Ézéchiel étaient des prêtres au point de départ. Amos, c'était un berger. Michée, sans doute un notable de province. Voilà, alors, en tout cas, ils sont assez différents, aussi de tempérament, etc. Voilà. Le prophète aussi, par rapport à la communauté, le fait d'être choisi par Dieu, il est dans, en étant un peu à côté quand même. Donc il a une liberté de parole. Donc il peut se permettre de dire des choses au roi qui ne lui plaisent pas. Nathan, moi, il s'est permis de dire à David. Et David l'a reçu parce qu'il le considère comme un homme de Dieu. Donc il a. C'est très important. On voit qu'on ne suit pas le bon Dieu tout seul. On a besoin des autres. Et dans le gouvernement du peuple d'Israël, c'est le roi n'est pas tout seul. C'est un drame quand on veut imposer son pouvoir où on était. Donc il y a toujours. Il y a ces trois pôles, hein, comme je vous disais, prêtre, prophète et roi. Et du coup, on a toujours besoin des autres. Et David, le grand roi David, avait besoin aussi d'un prophète à côté de lui. Alors, Isaïe, par exemple, qui dit, ou non, c'est Jérémie qui dit, malheur à celui contre le roi, malheur à celui qui construit son palais au mépris de la justice. Donc, voilà, il n'hésite pas. Ou contre les prêtres. Alors ça, c'est Malachie. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de glorifier mon nom, dit le Seigneur de l'univers, j'enverrai sur vous la malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez, etc. Du coup, ils ont une place particulière, hein, ils secouent un peu, ça empêche de s'endormir. Prophète, on pourrait le dire comme ça, il empêche de s'endormir et voilà. Donc, il a une grande liberté de parole. Il fait partie de la communauté, mais en même temps, il est un petit peu sur la frontière, en quelque sorte. Et en même temps, il intercède pour le peuple. Le prophète, c'est aussi celui qui intercède. Hein, c'est la sentinelle, etc. Mais il le fait pour les autres. Alors, c'est de manière un peu tardive. On parle d'Abraham comme d'un prophète, mais Abraham, en tout cas, on le voit qu'il intercède. Moïse est en quelque sorte presque plus qu'un prophète, et Moïse aussi, on le voit intercéder pour son peuple. Hein, donc, il va les secouer, mais en même temps, il intercède pour eux. Il se désolidarise pas de son peuple, le prophète. Et derrière tout ça, vous pouvez penser à Jésus, qui est le prophète par excellence, même si le terme ne sera pas souvent pris pour Jésus. Mais voilà, à la fois, il peut secouer les pharisiens et tous les autres, et nous aussi. Et puis à la fois, il intercède, il donne sa vie pour nous. Donc, voilà. Alors ça, c'est... la place du prophète par rapport à la communauté. Un autre aspect encore pour le prophète, c'est qu'il est souvent confronté à l'épreuve. Alors, bien sûr, vous désirez le charisme de prophétie, bien entendu. Mais en tout cas, le prophète, dans l'Ancien Testament au moins, mais pas seulement, ils ont souvent un ministère un peu difficile. C'est quand même pas très agréable d'avoir à se battre toujours. Alors, ils le vivent plus ou moins bien. Pour Jérémie, qui était assez sensible et tout ça, et il aurait préféré ne pas avoir à toujours reprendre les gens, etc. Donc, c'est assez austère quand même. Et donc, il y a toute une lutte intérieure. On voit chez Moïse, on voit chez le prophète Élie, hein, ils ont des moments un peu compliqués. Hein. Élie, quand il repart vers la montagne de Dieu, et puis il en a un peu marre, hein, parce que pourtant c'était pas une mauviette, Élie. Hein. Je vous raconte pas tous ces. Mais en même temps, à un certain moment, il est un peu découragé dans son ministère. Donc, à l'intérieur, c'est de même, c'est pas forcément une mission toujours facile. Hein, c'est une mission exigeante. Et puis une souffrance aussi extérieure, c'est pas simplement Jérémie, on va le jeter au fond d'une citerne, parce que ce qu'il avait annoncé ça plaît pas aux gens, donc ils le mettent au fond d'une citerne. Après on l'emmène en déportation, donc on l'enchaîne et on l'emmène en déportation. Donc il y a beaucoup de prophètes ont été tués, hein, vous vous rappelez de cette parole de Jésus, Jérusalem qui tue les prophètes. Hein, donc c'est voilà, donc ils souffrent de l'intérieur et de l'extérieur, si je puis dire, les prophètes. Et avant de passer à l'Ancien Testament, je fais un petit mot sur les faux prophètes. Alors les faux prophètes, c'est ceux souvent qui ont la tentation de flatter le pouvoir et les foules. Alors dans les Béatitudes, c'est alors je ne sais pas si c'est Saint Matthieu ou Saint Luc, mais malheureux êtes-vous quand tout le monde dit du bien de vous, etc. Donc c'est si en tout cas c'est ce qu'on cherche. Bon, si on dit du bien de nous, on n'est pas fâché, il faut être honnête. Hein. Mais en même temps, si c'est ça notre motif, c'est que les gens nous apprécient, alors là, il y a un problème. C'est pour être fidèle à Dieu, c'est pas pour que les gens nous applaudissent. Alors Jérémie, par exemple, donne trois reproches aux faux prophètes quand ils sont un peu trop extravagants. Alors vous pouvez trouver ça au chapitre 23 de Jérémie. Du chapitre 13 au 31, quand ils communiquent simplement les pensées de leur propre cœur, mais ce n'est pas celle de Dieu, ou quand ils prétendent que leur parole, mais qui n'est qu'une parole humaine, est la parole de Dieu. Alors ça, c'est des faux prophètes. Vous connaissez bien sûr l'épisode entre le prophète Élie sur le mont Carmel. Le mont Carmel, alors, le prophète Élie dit, je suis resté tout seul, fidèle comme vrai prophète, et il y a 450, devant lui 450 prophètes de Baal. Donc il dit à la foule qui assiste, il devait y avoir quand même une bonne foule, parce qu'il y avait déjà 450 prêtres, prophètes de Baal. Alors donc, vous invoquerez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Donc, vous vous rappelez, ils mettent un taureau sur le bûcher, et puis ils prient jusqu'à la fin du jour. Élie se moque d'eux. « Oh, votre Dieu, il est en vacances ?» Ou « Il a des soucis ou... ?» Voilà. Et puis après, quand c'est le tour d'Élie, alors ça prend feu, etc. Et c'est pas dans la tendresse, il les égorge tous. Bon. Mais donc, on voit cette lutte contre les faux prophètes. Jésus en parle à plusieurs reprises. « Méfiez-vous des prétendus prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Et aussi, à la fin des temps, « De prétendus messies et de prétendus prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. » Voilà. Donc, il y a des faux prophètes et il y en aura toujours. Voilà. Alors, maintenant les prophètes dans l'Ancien Testament. Ça va, ça c'est la deuxième partie. Alors, pour faire simple, je vais mettre trois catégories de prophètes de l'Ancien Testament. Des prophètes non écrivains. Des prophètes, et dans les prophètes écrivains, je dirais les quatre grands prophètes et les 12 petits prophètes. Alors, qui peut me citer? Non, je commence par les prophètes non écrivains. Alors, en fait, donc les prophètes écrivains, c'est Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc. Et puis les 12 petits. Mais il y en a bien d'autres avant. Alors, on en parle dans la Genèse, on parle d'Abraham comme d'un prophète, mais c'est surtout Moïse qui est même plus qu'un prophète, parce que, comme le dit le Deutéronome, après lui, personne ne l'a égalé, et du coup, ils attendent Jésus qui est comme ce nouveau prophète. Et puis après, il y a des bandes de fils de prophètes. Voilà. Après, on voit des prophètes comme Samuel. Alors, le terme qui est employé pour eux, c'est quelquefois voyant ou visionnaire, hein, celui qui voit, etc., qui est homme de Dieu. Il y a des femmes aussi, hein, Déborah, par exemple. En tout cas, donc Élie, Élisée, etc. Donc il y a beaucoup de prophètes avant même ceux qui sont écrivains, les prophètes, si on peut dire, écrivains. Dans les grands prophètes écrivains, donc c'est Isaïe. Isaïe, c'est quand même le prophète par excellence, on pourrait dire le plus grand des prophètes, si on peut dire. D'ailleurs, pendant l'Avent, vous regarderez, hein, c'est beaucoup Isaïe qui revient. Hein, parce que, et au moment de la Passion, c'est beaucoup Isaïe, hein, le chapitre 53 d'Isaïe en particulier, mais pas seulement. Donc, Isaïe, c'est vraiment un grand prophète. Alors, c'est un prophète, c'est aussi une école de prophétie, parce que c'est étalé sur une certaine durée aussi. Alors, donc, c'est aussi Isaïe et son école, on pourrait dire. Jérémie, Ézéchiel. Alors, il devait avoir une grande imagination, en tout cas, il a des visions et tout ça. Les roues qui tournent dans tous les sens, quand on essaie de comprendre, quand on se creuse un peu la tête. Mais Daniel, avec une partie où il impressionne les Babyloniens par son intelligence, il sait décrypter les songes, et puis après, il y a toute cette partie plus apocalyptique qui nous est moins familière. Voilà. Puis après, les 12 petits prophètes, je ne vous les demande pas, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habacuc, Sophonie, Agée, Zacharie et Malachie. Donc Malachie, c'est le dernier de l'Ancien Testament. Et puis après, donc, il y a cette période intertestamentaire où, ils ne savent pas très bien, l'esprit ne souffle plus chez les prophètes. Et on comprend aussi comment l'enthousiasme quand Jean-Baptiste commence à prêcher. Alors là, il dit « Ah, ça fait 3 siècles qu'on n'avait plus de prophète, enfin un prophète !» Donc. Mais c'est une période, c'est vrai que ça leur manquait en tout cas, les prophètes. Dans l'Ancien Testament, alors là, c'est un peu sacrifié, mais j'aurais voulu le développer davantage, et puis je pense qu'on n'aura pas assez de temps de toute façon. Et puis, on aurait pu voir plusieurs prophéties, comment elles s'accomplissaient, des prophéties de l'Ancien Testament qui s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Vous savez, alors ça c'est très vrai, pendant tout le temps de l'Avent, la première lecture est choisie vraiment, on a pour ainsi dire la prophétie dans la première lecture et l'accomplissement de cette prophétie dans l'Évangile. Hein. Donc ça se répond beaucoup. C'est aussi important pour nous de voir que l'Ancien Testament est important, il nous aide à comprendre le Nouveau, et le Nouveau il s'éclaire mutuellement, l'Ancien et le Nouveau Testament, donc c'est on ne peut pas se contenter de l'Évangile. On comprend pleinement l'Évangile que aussi quand on se nourrit de l'Ancien Testament. Mais même plus généralement, le dimanche, habituellement la première lecture, sauf pendant le temps pascal, je pense, mais la première lecture, souvent, c'est quelque chose de l'Ancien Testament en rapport avec ce qui sera proclamé dans l'Évangile. Donc, voilà. Toujours ce lien. J'ai retenu juste trois éléments, mais je le ferai très rapidement. Vous connaissez l'attente de Jésus. Donc, Isaïe, chapitre 7, verset 14. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Donc, c'est ce qui est rappelé dans les évangiles au moment de la naissance de Jésus. C'est saint Matthieu qui nous le rappelle. Alors, peut-être on va s'arrêter un tout petit peu quand même sur cette prophétie. C'est d'essayer de comprendre un peu ce qui se passait dans la tête d'Isaïe quand il a annoncé ça. En fait, au point de départ, il ne pensait pas spécifiquement à Jésus. Il était dans une situation où le roi Akaz voulait faire appel, donc il était jeune, et puis il y en a deux de ses voisins qui veulent l'attaquer, donc il veut faire appel aux Assyriens, etc. Et justement, le mot d'ordre d'Isaïe, c'est « ne crains pas, crois seulement ». Et il le confirme par cette parole sur l'Emmanuel. Et du coup, il veut dire que justement, ça, c'est un descendant du roi qui va vaincre son ennemi. Et la jeune... Alors, selon les traductions, vous avez la Vierge est enceinte ou la jeune femme est enceinte. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au point de départ, ça peut être c'est la jeune femme, vierge ou pas, mais petit à petit, ça va être repris dans les Juifs en lisant ce passage d'Isaïe, vont le traduire par la Vierge plutôt que la jeune femme. Il y a une version grecque de la Bible, de l'Ancien Testament, la Septante, hein. Et dans la version des Septantes, on parle de la Vierge, on parle plus de la jeune femme. Alors on voit comment aussi le bon Dieu travaille aussi son peuple, aussi pour relire, réinterpréter, approfondir ce qu'il a pu dire, même si au point de départ, Isaïe voyait que ça serait un descendant, mais il ne voyait pas distinctement Jésus dans ce descendant. Voilà. Alors, il y a celui-là. Après, bien sûr, en Isaïe, toujours, il y a le... Alors, ça, c'est plus pour la naissance de Jésus, mais il y en aurait beaucoup d'autres prophéties. On les aura pendant le temps d'avant. Par rapport à la figure du serviteur souffrant, toujours ce chapitre 53 qu'on lit pendant la semaine de la Passion, qui est très parlante, hein, c'est méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé et nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avions considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Je ne lis pas tout le chapitre d'Isaïe. Et puis, pour la résurrection de Jésus, j'ai pris juste trois pour illustrer rapidement. Donc, il y a par exemple ce verset du psaume. Tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. C'est le psaume 16. C'est dans les Actes des Apôtres, donc ils reprennent ce verset, entre autres, pour parler de la résurrection de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, qu'est-ce qu'il fait, Jésus, avec les disciples d'Emmaüs ? Il relie l'Ancien Testament pour leur dire, et c'est un refrain qui revient régulièrement dans les récits de la résurrection, c'est selon les Écritures. Donc pour voir ce lien profond entre ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament et ce qui est réalisé dans le Nouveau Testament. Je passe au Nouveau Testament. Alors bon, je vais sauter quelques petites choses, sinon... Je passe tout de suite à Jean-Baptiste. Mais vous connaissez bien, donc tout le monde le voyait comme un prophète. Après, donc, Jésus, qui est, même si Jésus est très différent de Jean-Baptiste, il y en a un qu'on traite de possédé et l'autre de l'ivrogne. Bon, voilà, je ne sais plus à quel endroit dans l'évangile, mais en tout cas, ils sont très différents. Mais il y a beaucoup de traits prophétiques chez Jésus. C'est comme ça que les gens, en tout cas, le voyaient. Aussi, quand pour sa sévérité vis-à-vis des pharisiens, contre l'hypocrisie, contre beaucoup de choses, donc on retrouve bien le prophète. Mais Jésus, lui, le prendra très peu, ce titre de prophète. Et dans l'Église, dans les débuts de l'Église, on parlera très peu de Jésus comme d'un prophète. On en parlera plus comme le Seigneur. Parce qu'il est plus qu'un prophète. Il est plus qu'un prophète, c'est le Fils de Dieu. Les prophètes disaient « parole du Seigneur », mais lui, il est la parole de Dieu. Il est le Verbe de Dieu incarné. Il y a un saut de qualité, si je puis dire. Et puis après, dans l'Église, on voit dans les Actes des Apôtres, dans les lettres de Saint Paul en particulier, on voit justement, dans l'Apocalypse aussi, on voit justement toute la place de la prophétie. Le jour de la Pentecôte, Saint-Pierre se lève. C'est Saint-Pierre qui reprend ce qu'avait dit le prophète Joël aussi. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Voilà. Alors, j'arrive à la quatrième partie. J'étais un peu rapide pour le Nouveau Testament. Bon, alors, le charisme de la prophétie, ça m'intéressait de parler de ce charisme de la prophétie. Encore une fois, je ne sais pas si vous êtes très familiarisés. Alors, ce n'est pas la même chose, hein, on n'annonce plus la venue de Jésus, c'est un peu tard. on n'annonce plus, ça n'a pas le même poids que les prophéties qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Hein. Ça, c'est la parole révélée. Toutes les prophéties, ça reste une révélation privée. Hein, c'est pas de la même nature. Donc, il faut quand même distinguer les choses. Et on peut pas mettre les prophéties de Nostradamus ou de Saint Malachi ou même de Marthe Robin, que j'apprécie par ailleurs. On peut pas les mettre au même niveau que les prophéties de la parole de Dieu. Hein, donc il faut toujours bien distinguer quand même la révélation publique et les révélations privées, c'est pas du même rang. Mais en même temps, le charisme de prophétie est quelque chose d'important. Vous savez tous qu'on est prêtre, prophète et roi. Et c'est le Concile Vatican II qui dit que le saint peuple de Dieu partage aussi le service prophétique de Jésus. Alors, comment ? Alors, une première manière d'être prophète, c'est déjà simplement de ne pas cacher sa foi et de dire sa foi et de dire ce en quoi on croit. Et ça c'est une première manière. Mais ça va un peu plus loin que ça, je pense. On voit que c'est très présent dans l'Église naissante, le charisme de prophétie. Je vous cite, alors c'est un texte de référence, il y en a beaucoup, hein, mais le chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, qui est très explicite sur le don de prophétie, le charisme de prophétie. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en effet en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. La prophétie, elle, est pour les croyants. Donc, aspirer au don spirituel, surtout à celui de prophétie. Hein, c'est ce que nous dit saint Paul. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà participé à un groupe de prière, mais charismatique. Alors, on parle quelquefois de cycle charismatique. Qu'est-ce que c'est que ça, le cycle charismatique ? Si vous avez participé à un groupe de prière, vous comprendrez très simplement, assez facilement, parce que c'est ce qui se vit avec nos pauvretés, etc. Mais il y a une certaine séquence. Souvent, ça commence par la louange, alors que ça soit chanté ou que ça soit vocalement, « Béni sois-tu, Seigneur », etc. Et puis après, donc, et c'est très important cette louange. Ça nous décentre de nous-mêmes, ça nous ouvre le cœur. Hein. La louange est vraiment essentielle dans notre vie et ça nous ouvre à Dieu. Et à un certain moment, quelquefois, il y a le chant en langue. Et après le chant en langue, il y a comme un peu de silence où voilà, on est en présence de Dieu, tout simplement. Alors, il y en a qui parlent d'onction à ce moment-là, de cette... Et c'est en quelque sorte le lieu favorable où sont données des paroles de prophétie. Hein, mais vous voyez, il y a un peu toute cette louange, il y a ce chant en langue et ce silence. Et du coup, à ce moment-là, sont données des paroles de prophétie. Et après, ces paroles de prophétie qui ont besoin d'être confirmées. Mais je pense que c'est important de voir un petit peu dans quel contexte c'est pas un beau jour, je me lève, etc. Mais voilà, ça suppose quand même d'être dans une certaine posture, on va dire. Après, le bon Dieu fait comme il veut. Hein, mais c'est un lieu propice, on pourrait dire. Une autre chose que je voulais dire, donc ça c'est sur le charisme de prophétie, mais là c'est la deuxième chose que je voudrais dire, c'est la personne qui a ce charisme, comment elle le vit. Ça peut nous aider aussi pour justement pour comprendre un petit peu comment les grands prophètes ont pu recevoir ça, parce que c'était des hommes ou des femmes comme nous, les grands prophètes. Et j'ai pris 6 éléments, mais bon, c'est un peu arbitraire, mais bon, peu importe, c'est juste pour fixer un peu les idées. La première chose, c'est de le désirer, comme le disait saint Paul, aspirer au don de prophétie. Si on n'y croit pas trop, et si on... Bon, quelque part, ça suppose de le désirer et de penser que c'est quelque chose de possible. Après, Dieu livre de ses dons, hein. Encore comme les prophètes de l'Ancien, c'est lui qui choisit, c'est pas nous qui pouvons prétendre avoir ce charisme comme ça de nous-mêmes, c'est un don de Dieu. Hein, le charisme en général, vous savez que c'est jamais donné pour nous-mêmes, un charisme c'est donné pour les autres, pour le bien de la communauté, hein, c'est pas pour soi-même. En tout cas, c'est déjà de désirer ce charisme. Si vous ne le désirez pas, ben vous risquez de ne pas l'avoir. Aussi simple que ça. Et puis après, une deuxième attitude, c'est d'écouter, et d'écouter avec foi et attention. Parce que ça suppose d'essayer de discerner aussi en nous-mêmes, d'être sensible à ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Un autre élément un petit peu différent, mais qui s'en rapproche, c'est cette ouverture vraiment totale, cette disponibilité intérieure. Alors Marie, c'est notre modèle par excellence, hein, que tout m'advienne selon ta parole, parce que Dieu ne forcera jamais notre volonté, il ne fera rien contre notre consentement. Donc voilà, c'est d'avoir cette ouverture, permettre à Dieu aussi de nous parler quelque part. Un autre élément, toujours chez celui qui reçoit ce caïf, c'est d'avoir l'audace de dire la parole. Parce qu'on peut dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Est-ce que, voilà. On peut avoir plein de choses. Et Dieu nous respectera toujours. Il ne va pas nous forcer. Et il va nous pousser avec une épée dans le dos pour qu'on prophétise. Non. Après, si on parle pas, on parlera pas. Et puis c'est tout. Mais c'est dommage pour la communauté. Encore une fois, la prophétie, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Donc ça suppose une certaine audace, une certaine confiance en Dieu. Et puis, cinquième élément, je trouve que c'est intéressant aussi, c'est de reconnaître que on prophétise de manière imparfaite, surtout au début, et que si on attend de prophétiser parfaitement, on ne prophétisera jamais. C'est une image qui peut aider. C'est comme Bernadette, elle va au fond de la grotte. Au début, l'eau, elle n'est pas vraiment claire. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent à l'eau. Elle n'est pas très limpide, elle se barbouille. Ben, le don de prophétie, c'est un peu comme une source. Au début, il y a beaucoup de choses. Et c'est accepter de faire les choses imparfaitement. Je crois que ça met dans une grande pauvreté. Comme pour le chant en langue, il ne faut pas imaginer, je vais répéter ma partition, comme ça je serai au point. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Et puis voilà, mais justement, c'est Dieu. Dieu veut faire ça aussi, veut déployer sa puissance dans notre pauvreté aussi. Et ça, c'est vraiment un élément très important. Et puis, encore un dernier élément que je voulais relever, c'est de se laisser corriger. Un prophète, celui qui exerce le don de prophétie, doit toujours, sa prophétie, elle doit toujours être confirmée. Si elle n'est pas confirmée, on ne l'accueille pas. Elle doit toujours être confirmée par quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est important parce que du coup, on voit qu'on est, on peut pas se prétendre, bon, moi je suis le prophète et vous m'écoutez, et puis en silence et vous me respectez. Non. Et quelque part, ça suppose une grande humilité. C'est pas toujours, je sais pas si vous aimez vous le faire corriger. Mais voilà, en tout cas, celui qui s'est aspiré au don de prophétie, en même temps, accepter d'être corrigé. Et ça. Je trouvais c'est intéressant en tout cas de parler un peu de ça parce que pour voir aussi comment se passent les choses spirituelles en nous, c'est à la fois de le désirer tout ça et en même temps de l'exercer de manière imparfaite et en même temps d'accepter d'être corrigé pour voilà. C'est très intéressant parce que je pourrais faire un parallèle avec ceux qui ont écrit les évangiles, par exemple. Vous avez quatre évangiles, c'est assez différent. Et chacun écrit comme il est. Et celui qui prophétisera, il prophétisera comme il est aussi, avec des choses, peut-être des imperfections, on le verra un tout petit peu plus loin. Mais vous vous rappelez le passage de la femme hémorroïs? Alors, saint Matthieu est plutôt soft. Bon, il parle de la femme hémorroïde qui est guérie. Saint Marc, qui a dû avoir un problème avec les médecins, qu'est-ce qu'il nous dit? Une femme atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins, et avait dépensé tout son avoir sans aucun profit, mais allait plutôt de mal en pis, etc. Saint Luc, qui était médecin, n'évoque pas ce sujet-là. Voilà, juste pour illustrer que. Bon, on parle avec ce qu'on est aussi. Et celui qui prophétisera, quelque part, il prophétise avec ce qui est incarné. C'est incarné, hein, c'est pas. Et Dieu veut pas nous prendre comme on est. Alors après, c'est là qu'il y a besoin de tout un itinéraire de purification, etc. Et c'est pas du premier coup qu'on y arrive. Voilà, et c'est pas avec l'aide des autres aussi qu'on y arrive. Voilà. Donc ça, c'était du côté de celui qui prophétise. Après, du côté des autres, c'est le discernement de la prophétie et l'obéissance. Parce que Alors, saint Paul nous dit dans la première épître aux Thessaloniciens, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Donc, on voit qu'en devant une prophétie, il ne faut pas aveuglément dire « c'est ça » ou « il ne faut pas la rejeter, c'est des choses un peu… » Non, c'est opérer un discernement. Alors, il donne trois éléments de discernement. Si la prophétie n'est pas en accord avec la parole de Dieu et avec l'enseignement de l'Église, on peut déjà la mettre de côté. Un deuxième élément, c'est de voir un peu l'effet de cette prophétie sur l'Assemblée. Si ça engendre le trouble et le désordre, vous pouvez la mettre de côté tranquillement. Le but, c'est encore d'aider les gens à avancer dans leur chemin avec Dieu. Hein. Ce n'est pas de casser les gens. Alors, quelquefois, ça peut les secouer. Mais autre chose est de secouer quelqu'un, autre chose est de le casser. Et troisième chose, c'est de cette confirmation qui a besoin donc, d'autres qui, quand ça résonne, confirment « oui, c'est bien ça que je… » Je confirme ce qui vient d'être dit. Et ensuite de ça, après avoir discerné, mais puisque le bon Dieu a dit quelque chose, de le mettre en pratique. Si on ne met jamais en pratique ce qu'il dit et si on laisse tomber cette prophétie en disant « bon, voilà, on passe à autre chose », le bon Dieu, il dit « bon, ils n'ont pas tellement envie que je leur parle, donc j'arrête. Hein. » Il ne boude pas, le bon Dieu. Mais il fait à la mesure de notre désir aussi. Voilà. Et du coup, donc il y a des prophéties, on voit que, je ne vais peut-être pas vous ennuyer avec tout ça, mais il y a des, on parle de non-prophétie. Alors c'est une non-prophétie, c'est quelque chose qui est peut-être très bien, mais ça ne vient pas de Dieu. Donc, quelquefois ça peut être même un peu troublant. Il y a une personne... Je me rappelle une personne qui parlait comme si c'était une prophétie, mais on savait tellement que c'était ses idées que ça, au bout d'un moment, ça faisait pas très crédible. Non, on n'annonce pas ses propres idées dans une prophétie. On parle de la part de Dieu. C'est quand même très différent. Père Éric qui va parler. À ce moment-là, c'est le bon Dieu, hein, c'est porte-parole de Dieu. Donc, et c'est même quelque chose de... C'est un peu violent ce que je vais dire, mais c'est se servir de Dieu pour faire passer ses idées. Alors là, je trouve que c'est un peu pas très correct. Bon. Mais après, la personne n'en a peut-être pas conscience, mais justement, il y a la correction fraternelle qui est là pour dire « Non, hein, mon coco !» Là, tu te trompes. Donc, ce n'est pas une condamnation à la personne, mais c'est de rectifier ce qui a besoin d'être rectifié. Ou alors, des fausses prophéties, ça, c'est pire. C'est quand ça vient de l'esprit du mal et pas de l'esprit de Dieu. Donc, on voit des fruits mauvais, ça divise, etc. Alors, c'est un peu les trois choses que j'avais dites. Si ça ne correspond pas à ce que le bon Dieu a dit pas dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de l'Église, on peut les mettre de côté tout de suite. Si ça cause du trouble et que ça n'édifie pas, hein, les trois verbes, c'est édifier, exhorter, consoler. Hein, c'est saint Paul qui nous dit. Si ça ne fait pas ces effets-là, on les met... Et puis le troisième, c'était si ce n'est pas confirmé, il faut que ça soit confirmé par quelqu'un. Si justement ceux qui sont là se disent « mais ça ne sonne pas juste, c'est ces idées qui… » Alors non, on l'écarte. Ce n'est pas les idées de monsieur ou de madame Intel, c'est la parole de Dieu. Donc c'est au moins trois éléments, pour faire simple, qui peuvent nous aider à y voir clair. Voilà, alors après, dans les prophéties… là aussi, comme je disais, il y a toute une purification. Quelquefois, on fait passer un peu nos dévotions et tout ça. On est, alors, c'est pas mal en tant que tel, mais ça vient un peu s'agréger à la prophétie, mais ce n'est pas le cœur de la prophétie. Ou quelquefois, on rallonge un peu la sauce, il y en a qui parlent, voilà, et du coup, non. Et quelquefois, on voit que le début, c'est vraiment la prophétie, et puis après, on allonge un peu la sauce, ça, c'est la personne qui en rajoute un petit peu. Donc, après, bon, ça, on essaye... Pauvrement, mais bon, on essaye de discerner et de faire le tri. Bon, sachant que c'est jamais tout à fait infaillible, et puis voilà, mais c'est, je trouve intéressant, en tout cas, je vais m'en arrêter là, mais de voir aussi que le bon Dieu, il veut travailler nos cœurs, il veut nous parler aussi, mais pour nous, ça nous demande aussi cette souplesse, cette foi, cette souplesse, cette docilité, cette capacité de nous laisser corriger, cette capacité aussi de nous lancer sans tout maîtriser, mais d'accepter d'être imparfait. Je trouve que ça, c'est un bon enseignement des enfants, on pourrait dire, d'un point de vue spirituel. Et je pense que de ce point de vue-là, le charisme de prophétie peut nous aider à vivre vraiment en enfant de Dieu. En enfant de Dieu, bon. Tout ça, ça demande beaucoup de discernement et il y aurait sans doute beaucoup plus à dire, mais en tout cas, ça m'a intéressé de travailler pour ça pour vous. Voilà, alors, avez-vous des questions? Mais facile, bien sûr.
Ça veut dire que s'il n'y a pas de confirmation de la prophétie qu'on donne, elle n'est pas
reçue dans le corps. Ça fait partie d'un corps. Alors, je vous relise les paroles de saint Paul. Je crois que c'était dans chapitre 14. Enfin, je ne vais pas revenir. Mais normalement, non. Il faut que quelqu'un reçoive et puisse dire oui, elle résonne vraiment comme une parole de Dieu. Et en tout cas, c'est assez beau. C'est vraiment au sein de la communauté et d'une communauté de prière que ça se fait, que ça se vit. Et oui, du coup, ça nous laisse très pauvres, aussi bien celui qui prophétise que les autres qui ne savent pas toujours, mais voilà.
Ça nous dépasse.
Oui, ça nous dépasse. Ça nous dépasse pour une part, et en même temps, on doit faire avec ce qui nous est donné pour essayer d'y voir sans se laisser pétrifier d'avance parce que ça me dépasse, donc je baisse les bras. Non, on a quand même quelques éléments pour de discernement. Après, encore une fois, c'est une révélation, c'est plutôt de l'ordre de la révélation privée. C'est pas non plus, on peut ne pas y croire et quand même être dans l'Église quand il y a une prophétie.
Non, c'est parce que là, je fais une petite aparté, mais on a eu un week-end une fois là, ce week-end, et évidemment, c'était le week-end avec Christ. Donc, il y a eu beaucoup de questions par rapport au don des langues. Dans des larmes et tout, et après je me suis dit bon, pour faire arrêter parce que on n'était pas forcément assez calé pour répondre aux questions.
Oh, je le suis pas non plus. Non, j'ai beaucoup à apprendre encore dans le domaine, mais je trouve ça passionnant en tout cas.
Et donc les personnes qui participent pensent que c'était au moment des actes des apôtres et puis que là maintenant ça n'a plus lieu quoi.
Ah ben non.
C'est les catéchistes hein, qui nous disaient ça.
Non, justement, je pense que, mais ça, ce qu'ils appellent le cycle charismatique, c'est ça. Ça suppose d'être dans un certain climat, quand même. Il y a un climat favorable qui permet.
Ça demande aussi.
Ah oui, vas-y.
Apparemment, il y a des paroles de prophétie et il n'y a pas de confirmation parce que ça demande aussi la foi de la personne qui est en face et la confirmation peut arriver 4 ans, 5 ans après.
Donc, oui, alors oui.
Que faire pendant cette période de latence?
Bon, je pense qu'on le garde dans un coin de notre esprit et puis je pense que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui note dans un groupe et qui se notait et qu'on n'oublie pas trop vite parce que si c'est vraiment une... Et puis après, du coup, ben, le jour où elle est confirmée, ben, du coup, ça nous conforte un petit peu dans ce... Oui, dans notre...
Moi, je pensais que le don des langues venait plus après la prière à l'Esprit-Saint.
Il faut se garder de faire des choses trop carrées. Le bon Dieu est libre, il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler, puis d'un seul coup, ça vient. Donc, alors, c'est pas prévu cette année, mais peut-être l'an prochain, si vous voulez. Mais non, cette année, non, c'est pas prévu. Après, je vais vous parler de Jésus, mais sous des angles différents, si on peut dire, pendant tous les 6 haltes qui suivent, mais non, cette année, en tout cas pas pour les haltes spirituelles des dames.
Tu as dit tout à l'heure, en citant symbole, que la prophétie, c'est l'apanage des croyants. Quand Pilate écrit celui-ci, quelque part,
il y a un peu trop fait, non ? Ah là là ! Ma cousine ne me pose pas des cols.
En fait, ça veut dire que quelque part, c'est que bien des paroles, et en fait, dans le cœur de l'autre, vont produire, et en fait, c'est sans savoir, peut-être que Dieu est passé par nous, mais en fait, on ne s'en est pas rendu compte, et on s'est rendu compte, et c'est l'autre, qui en recevant, quand Pilate écrit ça,
il
dit parce que j'ai écrit,
il a écrit. Oui, et comme Caïphe qui dit il vaut mieux qu'un homme meure pour le salut de tous, aussi c'était. Clairement, il n'avait pas envie de prophétiser. Mais de fait, alors c'est la manière dont Dieu peut servir des choses pour retourner le mal en bien. Et de fait, c'est intéressant ce que tu dis aussi dans le sens où on ne maîtrise pas. Justement, nous, peut-être on a une parole prophétique, mais on ne sait pas vraiment qui ça va toucher. Ou après, c'est ce qui nous vient. Et on n'a pas calculé la trajectoire et là où elle va arriver. Après, mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'on pense que Dieu veut qu'on dise. Et on le dit. Alors oui, Dieu peut donner des signes, hein, après divers et variés, mais oui.
Vous avez parlé de la prophétie par des professions de l'Église privée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les prophéties actuelles qui touchent tout le peuple. Dans les prophètes, là, qui parlent au peuple, aux gens. Donc, dans les prophéties récentes, je pense à celle de Fatima, celle qui touche toute la communauté. Il y en a d'autres, je ne sais pas, des prophéties comme ça qui sont plus récentes et qui viennent un petit peu alerter toute la communauté chrétienne.
Alors, j'aime bien ce mot-là, comme un signal d'alarme, en quelque sorte. Souvent, c'est vrai qu'une parole prophétique, elle est pour nous réveiller un petit peu et nous de notre torpeur, quelquefois. Après, alors, il y a des paroles comme ça. L'Église est quand même très prudente, parce que, encore une fois, c'est plutôt de l'ordre des révélations privées. Donc, on ne va pas mettre sur le même plan que des paroles de la parole de Dieu. Donc, l'Église reste assez, sur les secrets de Fatima, etc. L'Église est quand même restée assez prudente. Notre principal guide, ça reste la parole de Dieu. Alors, on peut le laisser raisonner. Mais ça n'a pas la même... autorité, on pourrait dire, que la parole de Dieu. Mais ça doit nous ramener justement à la parole de Dieu et voilà, nous. Oui.
Juste une question par rapport à ce que dans la parole du pape peut être considérée comme prophétique, je pense à la fois où il est en Irak et il a parlé sur le lien entre. Le pape est-il un prophète aussi?
Bon, à certains moments, oui, et puis à certains moments, non. Ouais, je vais dire à certains... Après, ce qui est intéressant, c'est justement c'est de voir l'écho. Alors, l'écho, il peut y avoir deux causes pour lesquelles il n'y a pas d'écho, soit parce que c'est pas reçu, parce que les gens sont pas prêts à le recevoir, soit parce que c'était pas vraiment quelque chose qui venait de Dieu, enfin dans le sens d'une prophétie explicite. Après, il peut y avoir deux causes. Après, savoir quelle est là où ça n'a pas été, je ne saurais pas vous dire. Oui. Alors, autre chose est d'avoir une... je rappelle, hein, les prêtres, prophètes et rois, l'autorité du pape, elle est plutôt de celle, en tant que personne, celle de l'ordre des prêtres et des... Alors, c'est pas le roi. Donc, il est plutôt dans cette ligne-là. Après, il peut être en même temps, comme certains prophètes étaient à la fois prêtres et prophètes, il peut être aussi prophète. Mais quand il dit une parole, c'est d'abord en tant que successeur de Pierre qu'il dit une parole. Pas d'abord comme prophète. Mais il peut être en même temps les deux, je pense. Et il l'est. Enfin, je ne sais pas si je vous en mêle. Mais... Du coup, quelquefois, une parole... c'est pas la parole d'évangile, hein, ce que je vais dire, mais je pense que ce qui nous appartient, c'est un peu comme Bernadette. Elle va dire au curé, là, la Sainte Vierge a demandé de construire une église. Après, il le fait pas, c'est plus son problème. Elle, ce qui lui était demandé, c'était de le dire. Après, c'est plus son souci, quelque part. Et je pense que... alors, si c'est confirmé, tant mieux, ça la réconforte. Ben, du coup, c'était vraiment... ça venait pas de mon propre fond, ça venait de-delà de moi, même si, bon, elle l'avait pas inventé, je suis l'Immaculée Conception. Mais malgré tout... quelque part, c'est le prophète, il me semble, est un peu dans cette attitude de Bernadette. Il dit ce qu'il pense devoir être dit, mais toujours avec cette pauvreté et tout ça. Est-ce que, voilà, il pense quand même qu'il faut le dire, mais après, il ne dit pas absolument ces paroles de Dieu et vous êtes obligé de m'obéir. C'est un peu différent, hein, vous sentez. Oui. Exactement, c'est ça. Elle.
Oui, je reprends sur Bernadette, là, qui n'appelle pas au nom de Dieu. Alors, dans l'Ancien Testament, moi, ça m'interpelle, parce que tout à l'heure, j'en avais parlé un tout petit peu, mais c'est beaucoup des prophètes hommes.
Non, il y a des femmes. Déborah, attendez, oh là là! Oh là là, je n'ai pas prévu ça. Non.
Ah, ça, c'est classique. Moi, en fait, les prophètes que vous avez dit, c'est souvent des hommes. Alors, il y a des femmes qui donnent des prophètes pour moi.
Alors, non. Alors, le contexte culturel, je pense, est différent. Mais vous voyez Myriam, la sœur de Moïse. Elle est prophétesse. Alors là, elle célèbre la victoire à la... quand ils reviennent, etc. Donc, il y a quand même un certain nombre de femmes. C'est vrai que dans les quatre grands et les douze, c'est des hommes, ça, de fait. Mais ça, il y a peut-être aussi une dimension aussi culturelle qui a fait qu'on a recueilli davantage les prophéties des hommes que des femmes.
Désolée, je ne dis pas que les hommes, c'est très bien, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les femmes.
Mais je pense que... Ah, dans le Nouveau Testament, il y a les quatre filles de Philippe qui sont des prophétesses. Vous voulez la citation? Ça vous réconforte. mais je pense qu'il y a aussi une dimension culturelle où peut-être on accordait plus de crédit. Parce que, encore une fois, hein, le prophète parle avec sa culture et tout ça. Peut-être qu'il y a un certain nombre de femmes qui ne s'autorisaient pas à prophétiser parce qu'elles disent « moi je suis une femme » et voilà, donc... Peut-être. Hein, donc, parce que Il faut une certaine audace quand même pour. Il faut une certaine audace et peut-être que ça vient peut-être aussi de ça, mais je pense que parce qu'on parle avec ce qu'on est et puis on est enraciné dans une culture, qu'on le veuille ou non.